Thomas Hardy. Le maire de Casterbridge. Chapitre 19. Henchard et Elisabeth causaient auprès du feu. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'enterrement de Mrs. Henchard. Les lampes n'étaient pas allumées, une flamme agitée et fantasque, jaillie d'un morceau de charbon, appelait sur la pénombre des murs le sourire de tous les objets qui pouvaient lui répondre. Vieux trumeaux à colonnes dorées et à énormes entablements, cadres des tableaux, boutons et poignées de portes, rosettes de cuivre au bas des cordons de sonnette disposés de chaque côté de la cheminée. « Elizabeth Jane, penses-tu souvent à tes anciennes années ?» demanda Henchard. « Oui, monsieur, souvent. »« Et que vois-tu dans tes souvenirs ?»« Mon père et ma mère, et personne d'autre ou presque. » Henchard prenait la mine d'un homme prêt à souffrir stoïquement chaque fois qu'Elisabeth faisait allusion à Newson comme à son père. « Ah, il n'y a pas de place pour moi dans tes souvenirs, » fit-il. « Newson était bon père ?»« Oui, monsieur, très bon. » Le visage d'Henchard se crispa en une expression de hauteur farouche qui s'adoucit pourtant peu à peu. « Et si j'avais été ton vrai père, » reprit-il, « m'aurais-tu aimé autant que tu as aimé Richard Newson ?» « Je ne puis rien imaginer de tel, » s'écria vivement la jeune fille. « Je ne puis songer comme un père à nul autre qu'à lui. » La mort avait pris sa femme à Henchard. Un refroidissement avait éloigné Farfrae, son ami et son bras droit. L'ignorance tenait à l'écart Elizabeth Jane. Seule la jeune fille pouvait revenir à lui. Son esprit balançait entre le désir de lui révéler sa paternité et la sagesse qui aurait laissé les choses en l'état. Incapable de rester en place, il se mit à arpenter la pièce et vint se placer derrière la chaise d'Elisabeth, les yeux attachés sur le sommet de sa tête. Poussé par un désir irrésistible, il demanda brusquement « Qu'est-ce que ta mère t'avait dit de notre histoire ? Que vous étiez parents par alliance ? Elle aurait dû t'en dire plus long avant de t'amener chez moi. Ma tâche en aurait été moins dure. Elisabeth Jane, c'est moi qui suis ton père, et non Richard Newson. C'est la honte seule qui a empêché tes pauvres parents de te faire cet aveu quand ils étaient encore tous deux en vie. » La tête d'Elisabeth restait immobile, et ses épaules même ne trahissaient pas le mouvement de sa respiration. Henchard reprit. « J'aime mieux encourir ton mépris ou éveiller ta crainte que de te laisser dans une ignorance qui me fait horreur. Ta mère et moi étions mari et femme dans notre jeunesse. C'est notre second mariage auquel tu as assisté. Ta mère était trop honnête, nous nous sommes crus morts l'un et l'autre et Newson est devenu son mari. » Henchard n'aurait pu serrer la vérité de plus près. Il n'aurait rien caché en ce qui le concernait, mais il faisait montre pour la jeunesse et le sexe de sa fille d'un respect digne d'un homme meilleur. Quand Elisabeth eut appris maint détail que corroborait d'étranges façons une série d'incidents insignifiants et oubliés de son passé, quand elle crut à la vérité de ce que racontait Henchard, elle fit montre d'une grande agitation, se tourna vers la table, y appuya son visage et fondit en larmes. « Ne pleure pas, ne pleure pas !» s'écria Henchard avec une violente émotion. « Je ne puis pas, je ne veux pas le supporter. Je suis ton père, pourquoi pleurer ? Te paraîtrais-je donc si terrible et si odieux ? Ne m'en veuille pas, Elizabeth Jane » cria-t-il en prenant la main humide de la jeune fille. « Ne me garde pas rancune. J'ai trop bu dans un temps, et je me suis montré brutale pour ta mère. Mais pour toi, tu verrais comme je serais bon. » « Meilleur que lui, je ferai tout pour toi, si tu consens seulement à me regarder comme ton père. » Elisabeth voulut se redresser pour regarder Henchard en face, mais elle n'en eut pas la force. Elle se sentait troublée par la présence de cet homme, comme les frères de Joseph au moment de la reconnaissance. « Je ne te demande pas de venir à moi tout d'un coup, » reprit Henchard, d'une voix saccadée, et avec un balancement de grand arbre dans le vent. « Non, Elisabeth, je vais me retirer, je ne te reverrai que demain, » ou quand tu voudras, et je te montrerai des papiers qui te prouveront la vérité de mes dires. Tiens, je m'en vais, je ne te tourmente plus. C'est moi qui ai choisi ton nom, ma fille. Ta mère voulait t'appeler Suzanne. Tu n'oublieras pas que c'est moi qui t'ai donné ton nom. » Il quitta la pièce, tira doucement la porte et sortit dans le jardin. Mais il avait encore quelque chose à dire. Sans laisser à la jeune fille le temps de bouger ou de se remettre de sa première émotion, il rentra dans la salle. « Encore un mot, Élisabeth, » fit-il. « Tu prendras mon nom maintenant, n'est-ce pas ? Ta mère ne s'en souciait pas, mais ce sera plus agréable pour moi, tu le comprends. C'est ton nom légal, en somme. Inutile d'ailleurs de dire cela à personne. Tu le prendras comme si c'était ton désir. J'en parlerai à mon avoué, car je ne connais pas trop la loi en l'espèce, mais veux-tu au moins me laisser mettre une note dans le journal pour dire qu'à l'avenir tu t'appelleras Miss Henchard ? Puisque c'est mon nom, je suppose qu'il me faut bien le prendre. Oh, tu sais, l'habitude fait tout en pareille matière. Je me demande, d'où venait la répugnance de ma mère pour cette idée ? Oh, c'était un caprice de la pauvre femme. Tiens, prends un bout de papier et écris-moi les lignes que je vais te dicter. Mais il nous faudrait une lampe. J'y vois assez à la lumière du feu, répondit-elle. Oui, je préfère cela. À ton gré. Elle prit une feuille de papier et, penchée sur l'âtre, écrivit sous la dictée d'Henchard une note qu'il avait évidemment trouvée dans quelque annonce du même genre. La jeune fille, connue jusqu'ici sous le nom d'Elizabeth Jane Newson, porterait à l'avenir celui d'Elizabeth Jane Henchard. La chose faite, la feuille fut pliée et envoyée au bureau de la chronique de Casterbridge. « Maintenant, » fit Henchard, dont la satisfaction d'être arrivée à ses fins empourprait comme toujours le visage, mais dont l'ardeur se nuançait cette fois de tendresse. « Je vais aller chercher là-haut les pièces qui te donneront la preuve de ce que j'avance. Seulement, je ne veux pas t'ennuyer avant demain. Bonne nuit, mon Elizabeth Jane. » Il disparut, sans laisser à la jeune fille interloquer le temps de se rendre compte de la situation ou d'accorder ses sentiments filiaux à leur nouvel objet. Elle lui sut gré de l'avoir laissée seule ce soir-là et resta songeuse devant le feu. Elle pleurait en silence, non plus sur sa mère, mais sur Richard Newson, l'homme si bon à qui il lui semblait faire tort dans son cœur. Henchard, cependant, avait regagné sa chambre. Il y conservait ses documents personnels dans un tiroir qu'il ouvrit. Avant d'y fouiller, il s'adossa à sa chaise et se laissa aller à sa rêverie. Élisabeth était enfin à lui, et il sentait que cette fille au sens droit et au cœur chaud allait sûrement l'aimer. Il était de ces hommes qui ont besoin d'un être proche, sur qui déverser en émotion ou en colère le trop-plein de leur cœur. Le désir de resserrement du plus étroit des liens humains avait été avidement éveillé dans son cœur pendant la vie de sa femme, et maintenant, sans hésitation et sans crainte, il avait cédé à son empire. Il se pencha à nouveau sur le tiroir et reprit ses recherches. Il avait rangé là le contenu du petit bureau de Suzanne, dont, à la prière de la morte, on lui avait remis les clés. Sur le tas des papiers se trouvait une lettre à son adresse qui portait cette suscription « À n'ouvrir que le jour du mariage d'Elizabeth Jane ». Plus patiente que son mari, Mrs. Henchard ne s'était pourtant jamais beaucoup entendue aux choses pratiques. En cachetant la lettre qu'elle avait simplement pliée et bordée sans enveloppe à la mode ancienne, elle avait appliqué un large placard de cire sur une face du papier, sans songer à en faire autant du côté opposé. Le cachet s'était brisé, et la lettre était ouverte. Henchard n'avait aucune raison pour attacher à la restriction une grosse importance, et ses rapports avec sa femme défunte n'avaient pas été de nature à lui imposer pour ses volontés un respect excessif. « C'est une lubie de la pauvre Suzanne, » se dit-il, en laissant sans curiosité ses yeux errer sur la lettre. « Mon cher Michel, pour notre bien à tous trois, j'ai gardé jusqu'ici un secret dans mon cœur. J'espère et je crois que tu comprendras mes raisons, même si tu ne me pardonnes pas. Mais, mon cher Michel, j'ai fait pour le mieux. Je serai dans la tombe quand tu liras ces lignes, et Elizabeth Jane aura un foyer à elle. Ne me maudis pas, Michel, songe à ma position. J'ose à peine continuer. Mais voici pourtant ce que je veux te dire. » Elizabeth Jane n'est pas ton Elizabeth Jane à toi, l'enfant que je portais dans les bras quand tu m'as vendue. Non, ta fille est morte 3 mois plus tard, et celle-ci, la vivante, est l'enfant de mon autre mari. Je lui ai donné le nom de la première, et sa venue a pansé la plaie ouverte dans mon cœur par la perte de notre enfant. Je meurs, Michel, et j'aurais peut-être dû garder le silence, mais je n'ai pas pu le faire. Informe ou non, selon que tu le jugeras bon, le mari d'Élisabeth de ce détail, et pardonne si tu le peux, comme je te pardonne, à une femme que tu as, en un temps, cruellement outragée. Suzanne Henchard. Henchard regardait le papier comme si c'eût été une vitre à travers laquelle il voyait des lieux de pays. sa bouche se crispa, et il parut contracter sa poitrine, comme pour mieux supporter ce coup du destin. Il n'était pas homme à se demander si la fortune le traitait bien ou mal, et sa peine ne se traduisait en face des afflictions que par cette réflexion chagrine. « Je suis destiné à souffrir, paraît-il. Voilà le genre de châtiments qui me sont réservés. » Mais aujourd'hui, dans son cœur tumultueux, cette pensée se déchaînait qu'il avait bien mérité cette révélation destructrice. Il comprenait maintenant la répugnance extrême de sa femme à laisser Elisabeth prendre le nom d'Enchard. C'était un nouvel exemple de cette honnêteté ou de cette duplicité qui avait souvent caractérisé la pauvre femme. Il resta près de 2 heures abattu et indécis. Puis « Ah, je me demande si c'est vrai !» s'écria-t-il. Bondissant brusquement, il rejeta ses pantoufles et monta avec une chandelle à la porte d'Elisabeth. Il colla l'oreille à la serrure, écouta et entendit le souffle profond de la jeune fille. Tournant doucement le loquet, il entra, cacha la chandelle et s'approcha du lit. Puis il écarta peu à peu le rideau qui masquait la lumière et la tint de façon à laisser ses rayons tomber obliquement sur le visage d'Elisabeth sans frapper ses paupières. Il scruta avidement ses traits. Elle était blonde et lui était brun, détail d'ailleurs sans grosse importance, mais le sommeil laisse paraître sur le visage tels traits généalogiques oubliés, telles courbes ancestrales, telles réminiscences des morts que cache ou atténue la mobilité et l'animation de la veille. Sur ce visage inerte de la jeune fille, sur ce masque de statue, les traits de Richard Newson se révélaient sans discussion possible. Enchard ne put supporter cette évidence et se précipita hors de la chambre. Devant la certitude de son malheur, il ne gardait comme recours qu'une patience hautaine. Sa femme était morte, et sa première impulsion de vengeance tombait devant l'impossibilité de l'atteindre. Il regardait la nuit ennemie. Comme tous les hommes de son caractère, Enchard était superstitieux, et ne pouvait s'empêcher de voir dans l'enchaînement des faits de cette soirée le jeu de quelque intelligence sinistre acharnée à son châtiment. Leur développement était logique pourtant. S'il n'avait pas raconté à Elisabeth son histoire passée, il n'aurait pas fouillé dans le tiroir, et ainsi de suite. La moquerie du destin, c'était de découvrir au moment précis où il venait de prier la jeune fille de se réclamer de sa protection paternelle, qu'elle n'avait aucun lien avec lui. Le jeu ironique des faits excitait sa colère comme une espièglerie méchante. Pareil à celle de John Prester, sa table, sitôt servie, avait été dépouillée de tous ses mets par des harpies infernales. Il sortit de sa maison, foulant la chaussée d'un pas morose jusqu'au pont jeté sur la Froome, au bas de la rue Haute. Là, prenant un sentier qui longeait la rivière, il suivit la bordure nord-est de la ville. Ce quartier résumait toutes les misères de la vie de Casterbridge, comme les avenues du Sud en représentaient tous les aspects flatteurs. Au plus fort même de l'été, il était privé de soleil, et au printemps, les gelées blanches s'y attardaient, quand d'autres endroits fumaient déjà sous l'ardeur des jours. En hiver, c'était la pépinière de tous les rhumatismes, de toutes les douleurs, de toutes les crampes torturantes de l'année. Les médecins de Casterbridge auraient végété et seraient morts de faim sans la configuration de ce quartier nord-est de la ville. La rivière, lente, silencieuse et noire, la Schwarzwasser de Casterbridge, coulait entre une double falaise, défense naturelle qui avait rendu superflu, en ce point particulier, murs et retranchements. On y voyait les ruines d'un couvent franciscain et d'un vieux moulin, dont l'eau, en se ruant à travers une vanne, mettait là une voie de désolation. Sur la falaise se dressait derrière la rivière un bâtiment précédé d'une masse carrée, dont la forme noire se détachait sur le ciel. On eût dit d'un piédestal veuf de sa statue, et, à la vérité, c'était bien un corps d'homme qui manquait pour achever le plan d'ensemble, car la masse carrée formait le soubassement du gibet, et les vastes bâtiments étaient ceux de la prison du comté. Dans la prairie où marchait Enchard, la foule s'assemblait au jour d'exécution et contemplait le spectacle souligné par le vacarme des eaux mugissantes. L'excessive impression de tristesse que la nuit mettait dans ces parages agit plus qu'il ne l'aurait cru sur Enchard. L'atmosphère lugubre des lieux était en trop parfaite harmonie avec sa situation domestique pour un homme sensible aux effets, aux scènes et aux nuances. Le feu qui dévorait son cœur s'éteignit pour faire place à la mélancolie, et il cria « Pourquoi diable suis-je venu ici ?» Il passa devant la chaumière où avait vécu le bourreau local avant que son office ne fût monopolisé dans toute l'Angleterre par un exécuteur unique et regagna la ville par une ruelle qui grimpait en pente rude. Les souffrances de cette nuit, fruit d'une déception amère, pouvaient bien lui mériter la pitié. Il était comme un homme à moitié évanoui et qui ne parvient pas à reprendre ses sens plus qu'à plonger dans la nuit totale. Il pouvait bien blâmer sa femme en parole, mais non pas dans son cœur. S'il avait obéi d'ailleurs à la prescription de sa lettre, cette douleur lui aurait été épargnée pour longtemps, peut-être pour toujours, car Elizabeth Jane ne semblait témoigner nul désir d'abandonner sa vie calme et sûre de jeune fille pour les voies hasardeuses du mariage. Au matin, après une nuit d'agitation, Henchard conçut la nécessité d'une ligne de conduite. Il était trop entêté pour consentir à une retraite qui eût comporté une humiliation. Il avait dit à Elizabeth Jane qu'elle était sa fille, et elle continuerait à le croire, malgré l'hypocrisie que pouvait exiger une telle affirmation. Mais Henchard était mal préparé aux premières conséquences de cette situation nouvelle. En le voyant entrer dans la salle à manger, Elizabeth s'avança vers lui en toute confiance et lui prit le bras. « J'ai pensé et repensé toute la nuit, avoua-t-elle franchement, et je vois que les choses doivent être comme vous le dites. Je vais vous considérer comme le père que vous êtes, et ne plus vous appeler Monsieur Henchard. Tout devient si clair maintenant. Oui, mon père, car vous n'auriez naturellement pas fait la moitié de ce que vous avez fait, vous ne m'auriez pas laissé une telle autorité et acheté de si belles choses si je n'avais été que votre belle-fille. Lui, Monsieur Newson, que ma mère avait épousé par une si étrange erreur, Henchard se sentit heureux d'avoir fardé la vérité, s'est montré bon, oh, bien bon. Elle avait les larmes aux yeux. Mais ce n'est pas la même chose qu'un vrai père, tout de même. Maintenant, mon père, le déjeuner est prêt, fit-elle gaiement. Henchard se pencha pour baiser la joue de la jeune fille. Depuis des semaines, il attendait avec un frémissement de joie ce moment et ce geste, qui maintenant n'était plus pour lui qu'une insipide momerie. C'est surtout en songeant à la fille qu'il avait repris la mère, et toute la joie escomptée se réduisait à cette poussière et à cette cendre.